Bonjour.
Bonjour.
Dans le cadre d'une série de podcasts, Morgan Phillips Executive Search, cabinet de chasse international, accueille des personnalités inspirantes et expertes sur des sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de la démotivation et de la motivation post-Covid. Pour échanger sur ces deux thématiques de démotivation et de motivation post-Covid, nous accueillons David Chamard.
Oui, bonjour Marc.
Bonjour David. Covid, télétravail, nouveau mode de fonctionnement, beaucoup d'adaptations. Dans le monde du travail notamment, cela rime parfois avec démotivation, perte de sens et confusion. Bien que ne datant pas de la crise sanitaire, le télétravail a pris de nouvelles formes et une plus grande ampleur suite aux différents confinements. On ne peut pas mettre l'économie mondiale en stand-by, mais qu'en est-il ? La gestion des travailleurs, la motivation des managers et la vision des dirigeants. Les avis et les vécus autour du télétravail divergent. Les uns en font l'éloge et le qualifient de bénédiction. Pour les autres, le télétravail est un cadeau empoisonné. Aujourd'hui, nous naviguons dans l'océan qu'est le télétravail et plus précisément dans ce qui se rapporte à la motivation en contexte de télétravail. Pour répondre à ces sujets, nous accueillons David. David, vous avez plus de 25 ans d'expérience dans le management, dans la stratégie, dans le développement commercial. Vous avez travaillé dans des grands groupes internationaux. Et depuis 2017, vous consacrez votre activité au coaching et vous venez de publier récemment un livre nommé « Osez la chance ». Aujourd'hui, c'est en tant que témoin de la démotivation et de la motivation des entreprises que nous vous recevons. Donc, première question, quelle observation faites-vous concernant la motivation des salariés dans les entreprises en ce moment ?
La première chose que j'observe, et c'est incroyable de se rendre compte, que le rythme est devenu un peu fou. En fait, tout va de plus en plus vite. On se souvient tous de la courbe du changement, la courbe de Kubler-Ross, qui fait aujourd'hui référence. Et pourtant, cette courbe remonte à 1969. Elle est toujours référente en matière de gestion du changement. En revanche, le rythme s'est tellement accéléré que ces changements sont de plus en plus fréquents, de plus en plus répétitifs. Autrefois, on se disait, il faut le temps de comprendre un changement, de le négocier, de pouvoir l'accepter, l'intégrer, avant de pouvoir passer à l'action, avant de pouvoir s'engager vraiment. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Il faut immédiatement comprendre le changement qui arrive à nous et tout de suite le mettre en œuvre. D'ailleurs, vous savez, cette image amusante, on dit « qui est d'accord pour le changement ?» Globalement, la plupart des gens répondent « oui, on en a conscience ». Et quand on dit « qui est d'accord pour changer ?», en général, il y a assez peu de monde, assez peu de candidats pour changer eux-mêmes. Tout ça remonte avant la crise sanitaire. Les changements s'étaient accélérés, l'économie était devenue mondiale. Maintenant, quand on regarde avec le travail à distance, une des problématiques, c'est que ces changements répétitifs et récurrents se font avec beaucoup moins de contacts et beaucoup moins de relations humaines. Donc l'accompagnement de ce changement est devenu beaucoup plus distant et donc pas forcément plus facile pour chacun individuellement à l'accepter et donc à s'y impliquer, à s'y engager.
Alors, très bien, on commence à parler de démotivation. Mais selon vous, quels sont les signes majeurs de démotivation que peuvent voir les managers vis-à-vis de leurs collaborateurs ou aussi que les managers peuvent aussi, dans certains cas de figure, avoir eux-mêmes en signe de démotivation ?
Vous avez raison. Finalement, on parle de la motivation et de la démotivation des collaborateurs. Ça part aussi des managers, finalement. Je crois qu'un des premiers signes qu'on observe, et il n'est pas toujours le plus simple, c'est le repli sur soi. On se rend compte quand les entreprises organisent des réunions, organisent des meetings, font travailler les gens sur des projets, que certains collaborateurs participent du bout des lèvres, donnent peu leur avis, répondent de plus en plus tard aux sollicitations qui leur sont envoyées. C'est parfois un peu sournois parce que ce n'est pas très clair et très net cette forme de désengagement, notamment à distance. On comprend bien qu'on ne voit pas de manière très nette cette forme de repli, de retrait. Il y a des formes plus évidentes, celles qui correspondent au moment de tension où les collaborateurs commencent à négocier systématiquement tout changement, toute mission qui leur est confiée, à contester. Ça se voit sur le plan individuel et collectif. On voit des collaborateurs qui se mettent en conflit avec leur manager, mais on voit aussi des collaborateurs qui se mettent en opposition avec leurs collègues. Ça produit d'ailleurs un effet qui est problématique, c'est que là où il y a besoin, notamment dans le travail à distance, de collaboration, pouvoir s'entraider parce que chacun a des points de force et des points de fragilité, cette collaboration disparaît. Et on voit des gens qui finissent par être isolés. On parle des signes de démotivation. J'observe et je partage d'ailleurs avec les entreprises ce point qui est fondamental, c'est comment c'est fait. Aujourd'hui, l'intégration des collaborateurs à distance. Tous ceux qui sont rentrés dans une nouvelle activité en étant seuls chez eux, avec comme seul outil la visio. Les entreprises avaient fait beaucoup d'investissements sur l'accompagnement de l'intégration en présentiel, avec un parcours d'intégration. En distanciel, c'est devenu plus complexe. Et donc là aussi, il faut être très vigilant sur l'intégration des nouveaux collaborateurs. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, Marc, et vous avez raison, les managers eux-mêmes tiennent parfois leur légitimité, leur leadership, leur présence en tant que manager sur des éléments de compétences, d'expertise. Avec le travail à distance, ils ont perdu beaucoup leurs repères. Et donc, les entreprises doivent être vigilantes sur quel est le niveau de motivation des managers eux-mêmes, puisque c'est eux qui donnent l'impulsion pour retrouver ou pour créer la motivation des équipes.
Pensez-vous que ces facteurs de démotivation ont été renforcés avec le télétravail et la gestion en distanciel ?
Alors, comme j'aime souvent à dire, il n'y a jamais de toujours, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une généralisation, mais oui, mon observation, c'est que le travail à distance a accéléré ce phénomène de risque sur la motivation. Et donc, je pense qu'il faut réviser ou faire évoluer la manière dont on anime la motivation. Pour moi, il y a une confusion aussi entre des éléments qui sont internes et externes. On ne peut pas reprocher à l'entreprise de ne pas fournir tous les éléments de la motivation aux collaborateurs parce que, de plus en plus, il y a une confusion vie privée, vie professionnelle. Je veux dire par là que certaines personnes qui se sentent perdues dans leur environnement privé le font supporter à l'entreprise ou à l'inverse, certains qui ne se retrouvent plus dans leur cadre de travail distanciel, subissent dans leur vie privée des tensions qu'ils ne savent pas expliquer. Quand il faut et gérer ses enfants et en même temps animer des réunions, c'est évidemment beaucoup plus complexe. Pour moi, il y a trois grandes familles de causes qui sont observables et qui doivent en permanence être challengées par la direction de l'entreprise, les ressources humaines, les managers eux-mêmes. La première chose, qui est une attente connue et répétée, c'est le fait de se réaliser dans son travail. Dans quelle mesure ma vie professionnelle me permet de m'accomplir, me donne l'occasion d'avoir du sens, me partage une vision, quelque chose qui me nourrit, qui me fait évoluer. Les collaborateurs demandent ça, comment je grandis dans mon entreprise. Ne pas faire toujours la même chose. Parfois, quand les collaborateurs font des tâches éminemment répétitives, ils disent « mais je suis même plus utile en fait, je suis un maillon discret voire effacé de la chaîne ». Et c'est là où on parle d'ailleurs de « bore-out », c'est quand on n'a plus ce sens et cette stimulation. Le deuxième grand élément qui doit absolument être observé, c'est la qualité des relations. Dans le travail distanciel, là où une tension qui existait entre un manager et un de ses collaborateurs, entre des collaborateurs, entre un manager et son équipe, en présentiel, ces situations de crise se résolvaient assez vite parce qu'on se remettait autour de la table, on se voyait, on se croisait. En distanciel, pas du tout. Puisque pour se voir, il faut le déclencher, eh bien, on doit être très très vigilant, c'est-à-dire que quand il y a des conflits et que les relations deviennent dégradées, il faut provoquer les conditions pour rétablir la qualité des relations. Et à distance, j'observe que ça n'est pas plus facile. Et le troisième grand élément pour moi qui est constitutif de cette motivation, et donc qui est un risque de démotivation, c'est la reconnaissance. On a traversé sur le mois de janvier la période des entretiens d'évaluation. Il faut observer, et j'ai eu la chance de le faire, la manière dont sont faits les feedbacks. Alors, dans quelle proportion on constate que les entretiens d'évaluation sont faits sur les éléments d'absence, d'erreur, de dysfonctionnement, bref, toute la partie de non-qualité qui est évaluée prioritairement. Mmh. Allez, j'oserais faire un croche-pied au SIRH qui parfois amène à renseigner ligne après ligne tous les éléments d'écart par rapport aux objectifs. Et certains managers qui ont parfaitement compris ça, notamment en distanciel, savent partir de ce qu'il y a de positif, tous les éléments réussis par un collaborateur dans son année, en remontant au début de l'année et pas aux trois derniers mois aussi, et les collaborateurs y sont sensibles, pour ensuite regarder les éléments d'amélioration qui sont possibles. Et ça, cet élément de la motivation ou de la démotivation est fondamental, c'est comment sont faits les feedbacks de manière régulière. Et en distanciel, comme on n'est plus amené à se croiser dans les couloirs, c'est quelque chose qui est structuré, donc qui est moins spontané, moins naturel, sur le fond comme sur la forme. Donc on doit être extrêmement vigilant là-dessus.
Oui, on partage effectivement votre observation, David. Je veux dire, effectivement, c'est acquis qu'aujourd'hui, le type de management évolue avec effectivement les outils aujourd'hui et les modes de travail qui se sont mis en place à travers les différentes pandémies qu'on a pu observer. Mais dans ce contexte, selon vous, les dirigeants ont aussi un rôle très fort de motivation et d'accompagnement de leurs collaborateurs. Selon vous, quels sont les éléments qui peuvent effectivement que peuvent apporter les dirigeants dans la motivation de leurs collaborateurs?
Je pense que il faut absolument évoluer dans son mode de management. Ça peut paraître finalement un lieu commun de dire ça. Mais dans la mesure où on n'est plus aussi souvent en contact, il faut surtout éviter le caractère répétitif, tous les rituels, les choses complètement formatées, dans lesquelles il n'y a plus cette spontanéité qui est un élément d'oxygénation, d'aération et donc de stimulation de la motivation. Au fond, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, les dirigeants, parfois, font porter au manager la responsabilité de « si tu as été nommé à ce poste, c'est pour savoir faire l'ensemble de ce qu'on attend de toi ». Quelque part, c'est assez légitime. Mais dans le même temps, je trouve que dans cette période particulière, redemander régulièrement au manager quels sont ses besoins, quels sont les points sur lesquels il peut avoir perdu pied. Et il y a beaucoup de managers qui ont appris le management sous un angle, on pourrait dire un peu ancien pour la jeune génération, peut-être, mais finalement, être manager, c'est savoir-faire, voire savoir tout faire. Et je pense qu'il faut accepter cette part de fragilité, cette distance aussi avec la responsabilité de tout maîtriser et savoir exprimer les besoins qui peuvent être autour des outils, qui peuvent être autour de la relation avec certains collaborateurs avec lesquels il y a une relation qui est devenue plus tendue. Observez, vous avez des managers qui vous disent « je n'interroge même plus mon équipe, de toute façon, ils ne me répondent pas ». Alors parfois on dit, bah oui, t'as raison, s'ils ne répondent pas, autant abandonner. Mais si on ne déprogramme pas ce mode de relation, alors dans la durée, eh bien, c'est une équipe qui va s'éloigner de son manager, qui va se décourager, et puis un manager qui lui aussi, au bout du compte, va se trouver démotivé. Donc il faut aider l'ensemble de la chaîne hiérarchique et l'ensemble des collaborateurs à exprimer ces éléments-là. Et puis vous avez des collaborateurs qui sont extrêmement autonomes, qui dans le travail à distance sont presque devenus indépendants. C'est simple, on ne les voit plus. Alors, ils délivrent, hein, mais leur contribution au collectif est carrément effacée. Et finalement, ça, c'est dommageable pour le collectif, même si individuellement, dans leur rôle, ils apportent bien une contribution. Mais vous avez l'inverse, finalement, vous avez des collaborateurs qui ne sont pas auto-motivés. Hein. Leur motivation vient de l'extérieur, ils ont besoin de compliments, de reconnaissance. Et eux, ils ont presque une position qui devient chronophage pour les managers. Donc, comment on leur apporte cette motivation régulière ? Forcément en étant vigilant, de leur apporter quelque part des petits feedbacks réguliers. Et dans le travail distance, puisque c'était notre sujet de départ, moi je trouve qu'il y a une vraie problématique à observer. Vous demandiez comment les managers, les dirigeants doivent faire évoluer les choses. Vous avez remarqué les agendas. C'est intéressant d'observer les agendas dans les entreprises. Non mais les agendas, aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, c'est chaque fois qu'il y a un blanc, hein, un temps libre, c'est un temps où on peut coller une réunion. Donc où est le moment d'oxygénation et de réflexion et de prise de recul ? Il a presque disparu, donc c'est devenu une compétition à remplir les agendas. Et c'est pour ça que je revenais sur comment on motive les collaborateurs, ben c'est en ne remplissant pas tous ces espaces qui sont vides par des réunions, mais en laissant du temps pour la réflexion, pour la créativité, et du temps informel. Si je veux donner un feedback à un de mes collaborateurs, je remplis son agenda et je lui colle une réunion de minimum 30 minutes. Ben oui, avant, quand on se voyait, ça pouvait être 5-10 minutes.
Tout à fait.
Et là, maintenant, les choses sont devenues tellement structurées, tellement rigides, que je dis qu'il faut remettre de l'agilité et de la souplesse dans ce mode de relation.
Si vous me permettez, je rebondis sur une thématique que vous avez abordée, effectivement, le mode de fonctionnement à la carte. Hein, c'est-à-dire, effectivement, chaque collaborateur a un relationnel avec l'entreprise à la carte. C'est-à-dire, certains souhaitent avoir un relationnel très fort avec des feedbacks réguliers. Certains, aujourd'hui, à travers le distanciel, sont quasiment en autonomie totale. Oui. Est-ce que, selon vous, l'entreprise doit imposer un certain nombre de mode de fonctionnement standard où effectivement aujourd'hui il est acquis que chaque collaborateur a son mode de fonctionnement autonome ou individuel par rapport à l'entreprise, parce qu'effectivement on sent qu'il y a, comme vous avez bien noté, il y a dans certaines structures vous avez des modes de fonctionnement tellement différents en fonction des collaborateurs, alors qu'avant on avait une structure qui permettait quand même d'accompagner les collaborateurs dans une structure qui permettait d'avoir un sens commun, on va dire, sur un objectif commun.
C'est pour ça que votre question tout à l'heure de comment la direction de l'entreprise peut faire évoluer le mode de management, eh bien, je pense que je parlais d'agilité. On ne peut pas adapter son mode de management totalement à chacun selon son tempérament, sa personnalité. Pourtant, on ne peut pas faire l'inverse non plus. Et donc, dans la motivation des collaborateurs, le fait d'avoir régulièrement un retour, même bref et rapide, est quelque chose qui, avec le travail à distance, est devenu plus compliqué. Je veux dire, puisqu'il n'y a plus cette spontanéité des relations physiques et du contact, il faut pour autant lui donner un cadre. J'ai tendance à dire qu'on a tendance à communiquer avec les gens comme on aimerait qu'ils communiquent avec nous-mêmes. Vous êtes d'accord avec moi, on l'observe. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tendance aussi à manager ses collaborateurs comme on aimerait être managé soi-même. Ça signifie quoi? Ça signifie que si vous êtes quelqu'un d'extrêmement autonome, eh bien, vous avez une résonance quand vous voyez vos collaborateurs très autonomes et donc vous vivez très bien avec eux. Ceux, à l'inverse, qui ont besoin de plus de feedback, ont tendance à être un irritant pour vous. C'est là où je trouve que la communauté des managers peut s'entraider pour reprendre pied dans la réalité. Si pour moi, un collaborateur qui est pas assez indépendant, pas assez autonome et fatigant, eh bien, entre managers, discutez pour voir comment certains ont trouvé, par rapport à la spécificité de votre activité, votre organisation, certains fonctionnent de manière très pyramidale, d'autres par projet, comment certains ont mis en place des rituels. J'ai accompagné une grande entreprise de soda, dont la marque est rouge, sans la citer, qui a mis en place tous les lundis matins un good morning meeting. Tous les lundis matins. Et donc, de manière très brève et sans aucun ordre du jour, et j'ai trouvé ça très bien, chacun parle et raconte un peu ce qui est à venir, sa motivation du moment. Et à partir de là, ben, certains ont l'autorisation à dire « Est-ce que je peux rester 5 minutes ?» Et donc, petit à petit, de manière naturelle et fluide, vient ce moment d'échange pour ceux qui, en début de semaine, n'ont pas complètement au clair le travail qu'ils ont à accomplir, ont besoin d'aide sur un point en particulier. Vous voyez, cette manière informelle et fluide de permettre à chacun d'exprimer son besoin et son attente. Ça, je trouve que c'est extrêmement utile et extrêmement positif, à la fois pour le manager, qui sort un peu de son cadre, qui ne part pas que de sa référence à lui et de son mode d'accompagnement, et aussi les collaborateurs qui peuvent solliciter leur hiérarchie en disant « en ce moment, j'ai un peu plus besoin d'aide ou d'accompagnement ».
David, très bien, nous avons effectivement, vous avez très bien expliqué donc les signes de démotivation et la genèse de cette démotivation. Nous aborderons dans une deuxième partie les leviers qui permettront effectivement aux différents dirigeants et managers de remotiver leurs équipes. Donc nous retrouverons dans une deuxième partie dans quelques jours.
Merci Marc, merci aussi pour ce temps d'échange qui était très riche et on espère avoir donné envie à tous les auditeurs de s'inscrire dans cette démarche, de trouver des nouveaux leviers de motivation, notamment dans le travail à distance. Et c'est un point qui me motive évidemment dans l'accompagnement que je peux faire des cadres et des entreprises sur ce sujet. Donc à bientôt pour une deuxième partie.